Le XXe siècle fut caractérisé par deux guerres mondiales, l'horreur de l'Holocauste qui entraîna l'extermination systématique de quelques 6 millions de Juifs, la brutalité du conflit sur la péninsule coréenne qui, d'une certaine façon, n'est toujours pas terminée, la guerre cruelle et vaine du Vietnam, des révolutions en veux-tu en voilà, des meurtres à gogo et des actes terroristes en tout genre. C'est au mètre cube que les hommes versent quotidiennement le sang. Et je ne compte pas l'exploitation souvent grossière des plus faibles. Alors une question cruciale se pose. L'histoire humaine a-t-elle une direction et un but ou est-elle juste une succession arbitraire d'événements qui conduisent nulle part? Et puis, comment devons-nous vivre au milieu du chaos, de la confusion et de l'absurdité de notre existence? À ces interrogations, je peux penser à trois possibilités de réponse selon la vision du monde qu'on adopte. La première considère l'histoire comme un perpétuel recommencement, des boucles qui se répètent. Cette façon de voir caractérise la pensée orientale et surtout l'hindouisme et le Nouvel Âge qui ne se préoccupent pas de trouver un sens à la vie. L'Ecclésiaste, dans le livre de l'Ancien Testament qui porte son nom, est un prédicateur cynique qui apporte aussi son suffrage à cette perspective quand il dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » La seconde vision du monde est le naturalisme athée qui considère l'histoire comme linéaire, une suite d'événements déconnectés qui se succèdent. Comme la vision précédente, elle n'a ni sens ni but. Le célèbre défenseur du darwinisme, Richard Dawkins, écrit « L'évolution n'a pas d'objectif à long terme. Elle ne cherche pas à atteindre un but lointain. Elle ne travaille pas en vue d'une perfection finale qui servirait de critère à la sélection naturelle. Bien que la vanité humaine affectionne la notion absurde que notre espèce est le but final de l'évolution. Selon ce point de vue, nous sommes insignifiants et l'humanité n'est qu'une phase momentanée de l'histoire. Un fameux paléontologiste s'exprime sans détour quand il dit « L'homme est le résultat d'un processus de sélection naturelle qui n'a pas tenu compte de lui ». C'est brutal. La vision chrétienne du monde contraste nettement avec les deux précédentes. Les Écritures présentent l'histoire comme le plan du Créateur, Dieu souverain. Dans l'Ancien Testament, on lit « Dès le commencement, j'annonce l'avenir et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » J'agirai. Qui s'y opposera? Fin de citation. Et Job dit à Dieu, je sais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher d'accomplir les projets que tu as conçus. Jésus-Christ est le personnage central de l'histoire. L'Ancien comme le Nouveau Testament annonce son retour en gloire. Alors qu'ici-bas, les choses suivent leur cours tel que Dieu les a voulues, un événement déterminant se prépare à l'horizon. C'est le jour de l'Éternel ou jour du Seigneur qui commencera par une nuit de ténèbres, c'est-à-dire des jugements sévères contre l'homme et qui marqueront la fin de son règne usurpateur. Mais après la nuit viendra la clarté du jour avec le millénium quand Jésus sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. L'apôtre Paul avait enseigné toutes ces vérités durant son bref séjour dans la ville de Thessalonique. Mais après son départ, les croyants commencèrent à se poser des questions concernant l'enlèvement de l'Église et le jour du Seigneur. C'est Timothée qui avait fait part à l'apôtre de ces interrogations après son retour de Thessalonique. Dans le chapitre précédent, Paul a répondu aux questions relatives à l'enlèvement de l'Église. Maintenant, il va aborder le second grand sujet des préoccupations de ses croyants, le jour du Seigneur, qui verra l'anéantissement de tous ceux qui ont rejeté le Christ. Je commence à lire le chapitre 5 de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. « Maintenant, concernant les temps et les époques, Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive à ce sujet. Verset 11. L'expression « maintenant concernant » est une tournure de phrase que Paul utilise souvent quand il change de sujet. Le terme affectueux « frère » sert également à orienter l'attention de ses auditeurs sur un nouveau thème. « Les temps et les époques » est une référence au jour du Seigneur. Le premier mot est « chronos », d'où nous avons chronologie, et qui exprime le temps qu'on mesure en siècles, en années, en heures, minutes et secondes. Le second mot, traduit par « époque », concerne des périodes de temps, des dynasties et des âges. Les temps et les époques se réfèrent à la séquence des événements de la fin des temps, une série de jugements qui concerne essentiellement les non-croyants, puisque l'Église aura disparu. Cependant, comme le jour du Seigneur suivra l'enlèvement de l'Église, les Thessaloniciens se demandaient s'ils n'avaient pas raté ce rendez-vous et s'ils ne se trouvaient pas en plein jour du Seigneur à cause des persécutions qu'ils enduraient. Paul répond qu'ils n'avaient pas besoin d'en savoir plus parce que, d'une part, ces châtiments ne les concernaient pas directement, et d'autre part, comme Jésus l'a dit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Fin de citation. En d'autres mots, les croyants ne se préparent pas au retour du Christ en ayant les yeux rivés sur l'horloge ou au ciel ou en tirant des présages d'événements contemporains. Je continue le texte. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Verset 2. La venue d'un brigand n'est pas un événement heureux qu'on attend avec impatience, mais une calamité soudaine et inattendue. Quand vous quittez votre maison, vous ne laissez pas un mot sur la porte d'entrée disant « Monsieur le voleur, je n'ai pas fermé à clé, entrez, faites comme chez vous, vous trouverez les bijoux de famille et l'argent liquide dans le troisième tiroir de la commode à côté du buffet de la salle à manger. » Au contraire, on s'assure que tout est fermé à double tour. Dans les Écritures, la métaphore du voleur n'est jamais utilisée pour l'enlèvement de l'Église, mais pour décrire la venue du Seigneur qui viendra pour juger le monde et établir son règne de 1000 ans sur terre. Le jour du Seigneur est mentionné explicitement 19 fois dans l'Ancien Testament et 4 fois dans le Nouveau. Mais d'autres passages y font également allusion. Il est à distinguer du jour du Christ, de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus et du Seigneur Jésus-Christ, où il est question de récompense pour les croyants. Quant au jour de Dieu dont parle l'apôtre Pierre, il s'agit de l'état éternel. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que les prophètes déclarent que le jour du Seigneur ou de l'Éternel est proche, c'est pour signifier que Dieu est sur le point d'intervenir. Tout comme les prophéties, le jour du Seigneur avait un accomplissement à court ou moyen terme et un autre lointain qui correspond aux événements de la fin des temps. Par contre, et contrairement à l'enlèvement de l'Église, le jour du Seigneur sera précédé par un certain nombre de signes. Je continue le texte. « Lorsque les gens diront « Maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité », alors, précisément, la ruine fondra subitement sur eux comme les douleurs saisissent la femme enceinte et aucun n'échappera. » Verset 3. Précédemment, Paul s'est adressé aux Thessaloniciens à la deuxième personne disant « Vous savez fort bien vous-même ». Mais maintenant, il passe à la troisième personne et parle d'eux, c'est-à-dire les autres, les non-croyants qui sont sous la colère de Dieu. Il existe de nombreux passages de l'Ancien Testament qui parlent de ces jugements. Je donne deux exemples. « Voici venir le jour de l'Éternel, ce jour impitoyable, jour de fureur et d'ardente colère qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Tremblez, vous tous, habitants du pays, car il arrive le jour de l'Éternel, il est tout proche. » C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité, c'est un jour de nuages et de nuées épaisses. » Fin de citation. Par contre, l'enlèvement de l'Église n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament parce que c'était un mystère dont Jésus a vaguement commencé à parler quand il a dit « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Mais c'est l'apôtre Paul qui a reçu la pleine révélation de l'enlèvement de l'Église et qui l'a développé dans plusieurs de ses épîtres, comme nous l'avons vu. Par contre, ici, dans ce chapitre 5, l'apôtre parle spécifiquement du jour de l'Éternel, qui est un sujet qu'on trouve sous la plume de tous les prophètes. L'ancien Israël était inondé de faux prophètes dont la spécialité était le mensonge, évidemment. Ils promettaient un avenir radieux en dépit de l'imminence du jugement. Un jugement de Dieu qu'annonçaient les vrais prophètes de l'Éternel. Ce même scénario se répétera à la fin des temps. Malgré des signes avant-coureurs du jugement divin, l'élite de ce monde annoncera qu'enfin le paradis sur terre, la paix et la sécurité pour l'humanité sont sur le point de se réaliser. Et ils réussiront à tromper le monde entier. Je lis un passage. De faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges, au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Fin de citation. Tout semblera a priori normal, mais ce sera un faux calme avant la tempête. Je lis un passage. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Je continue notre texte. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Vous n'appartenez ni à la nuit, ni aux ténèbres. Versets 4 et 5. Paul passe à nouveau à la deuxième personne du pluriel parce qu'il s'adresse aux Thessaloniciens qui sont des croyants. De plus, il utilise encore le terme affectueux « frère ». L'enlèvement de l'Église clôturera le temps de la grâce et amènera le jour du Seigneur. Une ère se termine et une autre commence. Selon les Écritures, les incroyants sont dans les ténèbres qui sont d'ordre moral et intellectuel. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils sont dans l'ignorance et parce qu'ils vivent dans le péché, ils ne font pas ce qui est juste et droit devant Dieu. Les croyants, par contre, sont dans la lumière parce qu'ils suivent Jésus. Je lis un passage. « Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il aura la lumière de la vie. Toute personne qui a fait confiance au Christ n'a pas à redouter le jour du Seigneur qui ne le concerne pas. Je continue le texte. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour, et mettons le casque de l'espérance du salut. Versets 6 à 8. Tous ceux qui ont véritablement placé leur foi en Jésus-Christ doivent la manifester par leur comportement. Une vérité enseignée au travers de toutes les Écritures, d'où l'exhortation de l'apôtre « Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants ». Paul utilise le temps du présent pour bien indiquer que les Thessaloniciens doivent rester constamment vigilants et sobres. Les non-croyants sont si profondément endormis dans leur nuit spirituelle qu'ils donnent l'apparence d'être dans un coma éthylique, ivre-mort en somme. Par contraste, le croyant doit être vigilant, alerte et sobre dans le sens qu'il ne doit pas se laisser intoxiquer par les fausses valeurs de ce monde, que sont l'argent, le pouvoir et les plaisirs, par exemple. Il doit au contraire mener une vie équilibrée, disciplinée et adopter les priorités que Dieu donne dans sa parole. La vigilance et la sobriété que l'apôtre mentionne suggèrent une sentinelle qui est sur ses gardes et prête à se battre. Soit dit en passant que les derniers discours de Jésus rapportés dans les évangiles sont imprégnés de ce thème de la vigilance. Non seulement ce soldat est prêt par son attitude, mais il a aussi revêtu la tenue de combat de l'époque, c'est-à-dire une armure. La cuirasse servait à protéger ses organes vitaux, les endroits où il était le plus vulnérable. C'était l'ancêtre du gilet pare-balles. Quant au casque, sa fonction évidente est de protéger la tête. On retrouve dans ce verset la triade des principales valeurs chrétiennes, la foi, l'amour et l'espérance. La foi est mentionnée en premier parce que le salut est uniquement par ce moyen. Mais comme Calvin l'a si bien dit, si seule la foi sauve, la foi qui sauve ne reste pas seule. La foi est une cuirasse parce que c'est un moyen de défense contre les tentations et les ruses du diable. L'amour est la doublure à l'intérieur de la cuirasse. Une fois que quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ, il aime Dieu, son prochain et surtout ses frères dans la foi. Le salut qui est mentionné ici n'est pas la justification obtenue dans le passé ou la sanctification qui se réalise dans le présent, mais l'aspect futur du salut qui est la glorification quand le corps physique sera délivré de sa présente condition. Ailleurs, Paul définit cette espérance de la façon suivante. « Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établi dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Car Dieu transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. » Fin de citation. Le croyant attend la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean, que je cite une fois encore, écrit « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est. » Dieu n'a pas fini son œuvre en moi. Alors, s'il vous plaît, ne manifestez pas votre impatience à mon égard. Je devrais peut-être porter sur le dos un écriteau qui dit « Je ne suis pas ce que la grâce de Dieu peut faire de mieux ». Alors, comme je suis encore en chantier, soyez patient envers moi et je serai patient envers vous. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus ont en eux l'espérance du salut futur quand ils échangeront ce corps de mort latente contre un corps de résurrection. Ailleurs, Paul écrit « Ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. » Je continue le texte. « Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. » Versets 9 et 10. Le mot pour colère n'exprime pas un soudain accès de fureur, mais un état permanent. Ce sera l'attitude de Dieu vis-à-vis de tous les non-croyants pendant le jour du Seigneur, mais aussi pendant l'éternité. L'enseignement le plus alarmant, le plus effrayant et le plus terrible des Écritures et qui me glace le sang, est que Dieu jugera les mécréants à tout jamais. Leur sentence sera une condamnation éternelle. Par contre, c'est exactement l'opposé pour ceux qui ont placé leur foi et leur espérance en Jésus-Christ. Qu'ils soient vivants ou morts, ils seront ressuscités et accompagneront Jésus dans les cieux. Ils habiteront alors dans la maison du Père et participeront aux noces de l'agneau pour l'éternité. En suis-je digne? Bien sûr que non, et mille fois non. Il n'empêche que je serai assis à cet immense banquet avec tous les autres croyants de tous les temps parce que Jésus est mort pour moi et je l'ai accepté. Paul exprime la seule base sur laquelle on est sauvé quand il écrit « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Et Jésus a dit « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Je continue le texte. « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. » Verset 11. Comme il l'a déjà fait à la fin de son exposé sur l'enlèvement de l'Église, l'apôtre conclut sa discussion sur le jour du Seigneur par les mêmes paroles « Encouragez-vous les uns les autres ». Mais ici, en plus, il exhorte les Thessaloniciens à s'édifier mutuellement, ce qu'ils faisaient déjà, mais comme pour tout ouvrage en construction, il est toujours possible de l'améliorer davantage et de l'embellir.